Donc je vous apprends un scoop aujourd'hui. Ce soir, je reçois toujours avec grand plaisir Monsieur Lionel Édouard Martin. Certains le connaissent car il arpente généreusement les couloirs de l'ICEF au sein de l'UAG sur ce campus. Mais parallèlement, savez-vous, chers auditeurs, il a aussi des talents cachés en matière d'écriture. Et on va essayer de s'en faire l'écho ce soir à travers notamment une de ses œuvres qui est intitulée « Ulysse au seuil des îles » notamment. Hein. Mais dans un premier temps, Monsieur Martin, si j'examine votre parcours, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très éclectique.
Tout d'abord, je voudrais souhaiter le bonsoir aux auditeurs. Effectivement, parcours éclectique, une errance peut-être. Je vis, moi qui suis né en métropole, je vis depuis bientôt 25 ans à l'extérieur de la métropole, puisque j'ai passé 11 ans au Maroc, j'ai vécu 5 ans à Munich et que je suis depuis maintenant 7 ans en Martinique. Et je dirais, de par mes fonctions, puisque je travaille dans le domaine du français langue étrangère en Martinique, au sein de l'Institut supérieur d'études francophones. Donc, de par mes fonctions, je dirais que j'habite, si je puis dire, en Caraïbes. C'est peut-être plus exact puisque je vis en Martinique, dans la mesure où je suis appelé à me déplacer très souvent dans les différentes îles de la Caraïbe.
Oui, et par rapport à ce parcours en termes de voyage, vous avez parlé du Maroc et d'Allemagne notamment. Qu'est-ce que ces cultures vous ont apporté de plus que vous apporte actuellement la culture caraïbe et plus particulièrement la culture martiniquaise? Vous êtes, j'imagine, construit autour de tout, à travers des rencontres, à travers justement beaucoup de voyages. Et d'ailleurs, on s'en fera l'écho aussi quand il sera question de l'œuvre. Mais qu'est-ce que ces cultures-là vous ont apporté de plus?
C'est toujours très difficile de donner une réponse précise à ce genre de questions. Je dirais que subjectivement, vous parliez de rencontres tout à l'heure, je parlerai peut-être aussi de choc. Le choc culturel de cette rencontre avec l'autre. C'est presque une façon de vivre. C'est aussi une façon de vivre ma discipline, le français langue étrangère, de rencontrer comme cela, à travers des langues étrangères, des cultures, des civilisations étrangères, de rencontrer cet autre qui, à force d'être, comment dire, de moins en moins étranger, finit par devenir un petit peu moi aussi, à moins que ce soit moi qui aille vers l'autre aussi tout aussi bien. Quoi. Il y a nécessairement, je crois, cette rencontre, alors qui est évidemment une richesse incroyable, et qui nous permet, je crois, par rapport au monde dans lequel nous vivons, de prendre pas mal de recul, et en particulier par rapport à soi-même. Comme je le disais, moi je suis, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se couper de ses racines. Moi je suis né dans le Poitou, il y a un certain temps, 48 ans, bientôt 49. Je ne nie pas cette appartenance à ce petit coin de France, mais pour autant, je suis aussi très heureux d'en être parti pour aller à l'errance, donc à l'aventure, vers d'autres civilisations, vers d'autres cultures qui, je crois, aujourd'hui font partie intégrale de ma personnalité, de celui que je suis. Et j'inclurai très volontiers là-dedans tous ceux qui ont bien voulu me suivre, à savoir ma femme, à savoir mes enfants, et tous ceux que j'ai pu entraîner donc dans cette aventure. Un enrichissement, à n'en pas douter, sur le plan personnel, sur le plan de la sensibilité aussi, et en ce qui me concerne personnellement, donc sur le plan de l'écriture très certainement.
D'un point de vue linguistique, vous aviez évoqué que vous étiez spécialiste du français langues étrangères, mais il y a une remarque qui m'a frappée tout à l'heure. Vous disiez, vous l'avez bien répété ici, que vous êtes avant tout poitevin d'origine, mais à vocation internationale de par votre parcours, c'est évident, et votre ouverture d'esprit. Mais ce qu'il y a aussi de frappant, c'est la remarque qui n'est pas anodine à mes yeux, qui tend à prouver que, apparemment, à travers les sonorités créoles que vous entendez ici, vous semblez vous y retrouver par rapport peut-être à votre terroir poitevin.
Ah ben, j'ai eu la chance, je dois être d'ailleurs une des dernières générations à être passé par là, mais j'ai eu la chance d'être nourri dans mon enfance de langue poitevine. Et la petite musique du poitevin, je l'ai toujours dans la tête. J'en suis d'ailleurs un ardent défenseur par ailleurs. Effectivement, il y a des sonorités du poitevin qui se rapprochent d'assez près de ce qu'on peut entendre en Martinique. Je parle malheureusement très très mal le créole, mais je suis sensible évidemment à la musique de la langue. Il y a d'ailleurs un certain nombre de mots qui semblent tout droit inspirés des dialectes de l'ouest de la France. D'ailleurs, je crois que c'est un fait historique.
Je pense qu'il y a eu pas mal de voyageurs normands, notamment, qui ont fait ce voyage transatlatlantique vers l'arc caribéen. Donc peut-être il en reste peut-être quelques résurgences.
Vraisemblablement. Enfin, je ne saurais pas trop en parler parce que ça n'est pas ma spécialité, mais je crois qu'historiquement, c'est tout à fait fondé.
Oui, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Créolettres. J'espère que ce morceau vous a un peu touché au plus profond de vous-même. En tout cas, ça nous a touché nous-mêmes. Et nous partons en voyage avec Ulysse. Au seuil des îles. Alors, Ulysse, d'abord, quel est ce personnage? Est-ce que c'est une partie de vous-même, Monsieur Martin?
Nécessairement. Ulysse, c'est un errant. C'est quelqu'un donc qui cherche son chemin. Il n'est resté que 10 ans, lui, si on peut dire, dans son errance avant de rentrer en Ithaque. Quelque part, oui, il doit y avoir une identification. Jamais complètement exact, bien entendu, entre ce personnage, Ulysse, et puis votre serviteur, qui lui aussi s'inscrit donc dans cette même errance.
Une errance, mais qui nous mène un peu partout dans l'arc entier, puisque Ulysse commence son périple à Saint-Kitts-Nevis, et ensuite, il poursuit en Haïti et à Saint-Domingue. Donc, qu'est-ce qui l'amène justement à virevolter, à papillonner comme ça d'une île à l'autre sans qu'il puisse se stabiliser véritablement?
C'est un peu la question que je me suis posée à mesure que j'ai écrit le texte. Je me souviens de le tout premier texte donc qui figure, qui pour une fois n'est pas un poème en prose comme les autres, mais un poème en vers libre. Donc je me souviens de l'avoir écrit à Saint-Kitts et Nevis, dans cette situation où j'étais dans un hôtel. Je passe ma vie à l'hôtel, je suis à l'étranger. Et l'hôtel donnait directement sur la mer. Il y avait un soleil absolument splendide. Et tout à coup, la mer m'est apparue avec donc ces reflets de soleil. Et je ne sais pas, les mots tout à coup me sont venus comme cela. Et donc j'ai écrit le poème liminaire d'Ulysse au seuil des îles de cette façon. Mais je ne savais pas que j'en ferais un recueil. Et c'est tout. À mesure donc que j'allais d'île en île, de par mes obligations professionnelles, que le projet s'est élaboré. Et à un moment donné, le personnage d'Ulysse lui-même s'est imposé. Et c'est à partir du personnage d'Ulysse, une fois donc qu'il est intervenu dans ce qui était à l'époque un recueil en construction, que le sens du recueil a été trouvé. Parce que il ne s'agit pas à proprement parler d'un recueil de textes qui seraient, sans relation les uns avec les autres. C'est pas non plus un récit poétique, c'est un ensemble de poèmes qui ont, moi je l'espère, une cohérence interne. Et cette cohérence, on la trouve à partir du personnage d'Ulysse, qui va d'île en île, qui parle de temps en temps, et qui se donne pour but de retourner dans son Ithaque à lui, et... Ithaque, dans la bouche d'Ulysse, en fait, c'est quoi ? C'est ce que j'appelle la langue de son enfance, sa langue d'enfance. En fait, un retour vers son enfance.
Outre Saint-Kitts, Nevis, Haïti, Saint-Domingue, le parcours d'Ulysse le mène également à Cayenne et également en Martinique.
Bien sûr.
Donc, quelle image forte vous reviennent essentiellement dans l'esprit d'Ulysse ? Parce que j'imagine qu'à chaque... ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que ça traduit des émotions, j'imagine, des lieux parcourus, même des anecdotes vécues au quotidien. Mais en tout cas, c'est du ressenti, c'est du vécu.
C'est du vécu et c'est du vu, si je puis dire. J'ai une poétique qui est marquée par la vision. Et la plupart des textes d'Ulysse, comme d'ailleurs des autres recueils que j'ai pu écrire, très souvent ont à la base une chose vue. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement anecdotique, comme par exemple ce poème écrit à Cayenne, où le texte m'est venu, a été mis en mots, à partir de l'image extrêmement banale d'un homme qui faisait un trou dans son jardin. Et donc, il y avait le fer de la pioche avec lequel donc il creusait son trou, tout à coup a été frappé par un éclat de soleil, et dans mon imaginaire, c'est devenu un oiseau. Et la plupart des autres textes donc d'Ulysse ont été composés de la même façon, à partir de choses vues. Alors ça... Ça peut être extrêmement banal, ça peut être quelque chose de plus original qui, va m'avoir marqué parce que ce sont des choses, des scènes par exemple de la vie de tous les jours telles que je n'en ai pas vu ailleurs. Mais ça peut être des choses extrêmement communes, extrêmement quotidiennes, qui tout à coup... Alors, pour des raisons que j'ignore, je suis bien incapable d'expliquer comment, d'une chose vue, on fait des mots. Mais toujours est-il que d'une sorte d'alchimie ou je ne sais trop quoi qui se produit et qui fonctionne. C'est comme ça, en tous les cas, que personnellement, j'écris à partir de choses vues.
Des choses vues, ça peut être des émotions, ça peut être des couleurs ou des odeurs. Et... En dehors même d'Ulysse au seuil des îles, il y a un autre recueil poétique que vous avez intitulé Strophique, qui lui présente à mon sens un intérêt à travers la violence du style de mots que vous avez employé.
Oui, Strophique est un... C'est un recueil qui a été écrit juste après Ulysse au seuil des îles. C'est un recueil qui est marqué par une... certaines violences verbales.
Un cri, pour moi, c'est vraiment un cri viscéral qui vient des tripes.
C'est tout à fait ça. D'ailleurs, très souvent, le vocabulaire des viscères est très présent dans le texte. C'est très litanique, avec beaucoup de violence. C'est un recueil qui s'efforce de réfléchir sur, je dirais, sur l'être même du poème, ce qui fait que ce qui fait du poème finalement l'émergence sous une forme esthétique du langage quotidien. Et le langage quotidien, finalement, son expression peut-être la plus simple, la plus primaire, c'est le cri. Et comment transformer le cri en ce qu'on peut appeler un chant. Je ne sais pas si le mot n'est pas trop
oui,
fort.
Puisqu'il y a une musicalité des mots, n'importe comment. Absolument. Mais est-ce que ça m'amène à vous poser une question par rapport à ce cri? Est-ce que ça voudrait dire que l'écriture, à un moment, peut être une véritable thérapie?
Alors, bon, c'est un problème récurrent, un questionnement en tous les cas récurrent sur l'écriture. Thérapie, je ne sais pas, à supposer que je sois malade à la base.
Ce n'a pas été mon propos, mais une façon de se libérer.
Très certainement. Je crois que c'est
de s'exprimer,
quelque chose
en tout cas,
de tout à fait fondamental.
En dehors de l'oralité.
Absolument. Absolument. Je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Ne serait-ce que, indépendamment du traitement d'une psychologie qui aurait besoin d'être traitée, je dirais que le travail de l'écriture, enfin, tout au moins de mon écriture, est un travail qui se veut extrêmement rigoureux et extrêmement précis. Parce que, comme je dis, généralement, je ne suis pas un écrivain, je suis un réécrivain, quelqu'un qui ne cesse de retravailler et de retravailler ses textes. Je crois que ce travail, donc, est un travail extrêmement rigoureux, contribue très fortement à structurer la personne, à n'en pas douter. Et d'ailleurs, il y a une très très grande satisfaction dans l'acte d'écrire et dans le fait d'être parvenu à quelque chose qui nous semble fini, terminé, sur lequel donc on pense qu'on n'aura pas besoin de revenir, même si je ne crois pas qu'un texte soit jamais véritablement complètement terminé, on peut toujours le retravailler. Mais il y a une sorte de satisfaction d'être parvenu à une sorte de terme, toujours très provisoire, bien entendu, mais on ressent que la tension qui habite l'auteur pendant l'acte d'écriture, tout à coup, parce que le poème va être terminé, eh bien, cette tension retombe et on se sent tout à coup libéré de quelque chose, effectivement.
Outre le langage poétique, il y a aussi, vous essayez au langage romanesque, dans la mesure où vous êtes aussi l'auteur de Chroniques d'émus. Et si je ne m'abuse, je crois que cette année, un autre roman est en préparation, à savoir Jean-Loup dans l'arbre. Alors, vous pouvez nous dire peut-être quelques mots rapidement sur ces pour faire en sorte que les auditeurs soient bien au courant que vous soyez en dehors de vos activités pédagogiques, vous l'aviez dit, un réécrivain, mais également aussi un poète.
Alors, c'est les proses dont il s'agit. J'ai toujours un petit peu de scrupule à les qualifier de romans. D'ordinaire, je parle de récits poétiques. Ce sont des genres qui sont très difficiles, je pense, à qualifier. Pas véritablement d'histoire qui soit racontée. C'est bien plutôt une sorte d'entrelacs de thèmes que j'essaie de mettre en place, de tresser, si l'on peut dire, autour évidemment quand même d'une vague histoire, parce que sinon le lecteur, bien entendu, se lasserait très rapidement. Dès lors qu'on écrit 200 pages ou 150 pages, il faut bien qu'il y ait un fil conducteur quelque part. Mais je dirais que l'intrigue, très ténue dans mon cas, de toute façon ne constitue pas le point nodal de ce type de, enfin, de ce que je vais appeler des écritures longues. C'est bien plutôt, ici encore, j'essaie en tous les cas de faire en sorte que ce soit l'écriture, le style peut-être, qui motive peut-être le fait que le lecteur s'accroche à sa lecture.
C'est vrai, il faut le captiver, et c'est bien aussi votre propos, parce que outre ce roman Jean-Loup dans l'arbre, il y a un autre recueil poétique qui va être publié aussi cette année, intitulé Arrimage, et il a une particularité, c'est qu'il est préfacé par Monsieur Raphaël Confiant.
Absolument. Alors, Arrimage est un gros recueil, 130 ou 140 pages, et très touffu par ailleurs, que Raphaël Confiant, mon collègue, donc, m'a fait la grande amitié de bien vouloir préfacer. Ça va être publié très prochainement, ça va sortir pour le mois de septembre, peut-être même avant, chez un éditeur de poésie métropolitain, Tarabuste. J'espère qu'on en trouvera quelques exemplaires en Martinique aussi. C'est un peu le prolongement d'Ulysse au seuil des îles. C'est encore une sorte de... d'itinéraire à travers alors un paysage qui n'est plus seulement caribéen puisque
un peu plus
voilà
plus loin.
On va jusqu'en métropole, on parlera du Poitou justement, et jusqu'en Espagne aussi, où il y a 2 ans j'ai eu la possibilité de séjourner. Ce sont des lieux qui m'ont fortement inspiré.
Eh bien, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est félicitations, et puis continuez d'avoir de grandes joies littéraires.
Merci.
Et nous terminons, parce que j'ai bien compris votre propos, malgré la dureté du style et du langage, il y a avant tout question de tendresse, et je crois que c'est bien de terminer sur des notes de tendresse, musicalement parlant.
C'est un joli mot pour la fin.